Chapitre 64. Nous n'avons pas le temps de nous inquiéter au sujet du poison, dit Richard en aidant sa femme à se relever. Pas le temps, alors qu'il avançait en titubant comme un ivrogne. Richard ouvrit une petite fenêtre et lança le signal convenu. Un sifflement haut perché d'un banal pioui, mais pour Kara, officiellement, le cri redoutable d'un improbable faucon des pins à courte queue. « J'ai utilisé une sorte d'échelle, » expliqua Richard. « Kara arrive. » Callan tenta d'approcher de son mari, mais elle se sentit étrangement mal à l'aise dans son propre corps. Elle vacilla sur quelques pas, les jambes raides comme des morceaux de bois. Bizarrement, elle brûlait d'envie de marcher à quatre pattes. On eût dit qu'elle était une intruse dans son enveloppe de chair. Devoir respirer avec ses poumons, voir avec ses yeux et écouter avec ses oreilles lui semblait aberrant, et le contact des vêtements sur sa peau la dérangeait en permanence. Richard lui tendit la main pour l'aider à tenir debout. Si peu assurée qu'elle fût sur ses jambes, la jeune femme trouva que c'était quand même la pitié qui se moquait de la charité. « Nous allons devoir nous battre pour sortir, » dit Richard. « Mais nous recevrons de l'aide. Je te donnerai la première épée que je trouverai. » Richard souffla la flamme de l'unique bougie du réflecteur posée sur une étagère.
« Je ne suis pas encore habitué à être, revenu en moi-même. Je doute de pouvoir sortir d'ici. Comme tu le vois, je suis à peine capable de marcher. »«
Callan, nous n'avons pas le choix. Il faut nous en aller. Je t'aiderai et tu recouvreras tes réflexes en avançant.
Tu tiens à peine debout. »
Ayant atteint le sommet du poteau échelle taillé par Richard, Kara passa d'abord la tête par la fenêtre, puis entra dans la pièce.
« Mère inquisitrice, »
s'écria-t-elle, émerveillée,
« le Seigneur Ral a réussi. »
« Inutile d'exprimer une telle surprise, » marmonna Richard en aidant la mort de Sith à se réceptionner. Kara jeta un coup d'œil plein d'indifférence au cadavre étendu sur le sol. En revanche, elle ne put s'empêcher de sourire quand Callan l'enlaça.
« Vous n'imaginez pas à quel point je suis content de vous revoir, mère inquisitrice. Et toi ?» Si tu savais combien je me réjouis de te voir à travers mes propres yeux. Dommage que vous ayez passé un marché truqué avec ce maudit sorcier. Nous trouverons une autre solution,
assura Callan. Richard alla entrebâiller la porte et jeta un coup d'œil dehors, puis il referma le battant et se retourna. Personne en vue. Les portes qui se trouvent sur la gauche et tout autour du balcon sont celles des cellules où ils enferment les femmes. L'escalier de droite est le plus proche en sortant d'ici. En bas, il y a des chambres d'officiers et des dortoirs des soldats.
« Je suis prête, » dit Kara. « Prête pourquoi ? »
demanda Callan. Richard prit sa femme par le bras. « Tu vas devoir m'aider à voir. »
« Le mal progresse si vite ? Tu es déjà aveugle ? »
« Ne pose pas de questions. Nous allons devoir faire le tour du balcon et ouvrir les portes. » Utilise tous tes talents de diplomate pour calmer les femmes. Nous allons les faire sortir avec nous. » Callan n'y comprenait plus rien. Le plan en cours n'avait aucun rapport avec celui que Nicolas et elle avaient entendu. Eh bien, dans ce cas, l'inquisitrice n'avait plus qu'à se laisser porter par les événements. Dehors, le long du balcon en bois, il n'y avait ni lampe ni torche, et la lune cachée derrière les montagnes ne fournissait presque aucune lumière. La vision de Callan, lorsque Nicolas contrôlait son esprit, avait été brouillée, comme si elle regardait à travers une vitre crasseuse. Ce soir, le ciel constellé d'étoiles paraissait plus beau que jamais à l'inquisitrice. À la pâle lueur des astres, elle distinguait les bâtiments alignés sur tout le périmètre des fortifications. Richard et Kara avaient commencé d'ouvrir les portes. Chaque fois, la mort de Sith passait la tête dans la cellule pour tenir un bref discours aux prisonnières. Certaines femmes sortaient en chemise de nuit, d'autres prenaient le temps d'enfiler des vêtements. Callan entendit des cris de bébé monter de quelques pièces. Alors que Kara parlait aux femmes d'une cellule, Richard ouvrit la suivante et souffla à Callan « Entre et dis aux prisonnières que nous venons les aider à s'enfuir. Précise que leurs hommes vont participer au sauvetage. Surtout, dis-leur qu'elles doivent faire le moins de bruit possible, sinon nous nous ferons prendre. » Callan entra, la démarche toujours hésitante, et réveilla une jeune bande d'Akkar qui dormait dans un lit sur sa droite. La prisonnière s'assit en sursaut, terrifiée, mais ne cria pas. Callan tendit le bras et réveilla la femme couchée dans le lit d'à côté.
« Nous allons vous aider à fuir, mais il ne faudra pas faire de bruit. Vos hommes sont là pour vous aider. Vous avez une chance de recouvrer la liberté. »«
Vraiment ?»
demanda la première Bandakar.
« Oui, c'est à vous de décider, mais je vous conseille de saisir cette chance et de vous dépêcher. »
Les femmes bondirent hors de leur lit et commencèrent de s'habiller. Richard, Callan et Kara continuèrent à faire le tour du balcon. Comme ils demandèrent aux femmes déjà dehors de les aider à réveiller les autres, il fallut une dizaine de minutes pour que les centaines de prisonnières soient dehors et prêtes au départ. Ayant l'habitude de souffrir quand elles attiraient sur elles l'attention des soudards, les Bandakar étaient d'un calme remarquable. Elles voulaient à tout prix fuir cet enfer et elles faisaient le nécessaire pour y parvenir. Plusieurs femmes avaient de très petits bébés dont on leur laissait la garde pour l'instant. La plupart dormaient dans les bras de leur mère, mais certains pleuraient, et les pauvres femmes s'efforçaient en vain de les faire taire. Mais ces sons familiers, avec un peu de chance, n'éveilleraient pas les soupçons des soldats.
« Attends ici !» souffla Richard à Callan.
« Que personne ne descende avant que nous ayons baissé le pont-levis !»
Kara sur les talons, Richard descendit en silence les marches et commença de traverser la cour. Intrigués par les cris d'un bébé, des soldats sortirent d'un bâtiment pour voir ce qui se passait. Bien entendu, ils repérèrent le sourcier et sa garde du corps et donnèrent l'alarme. Callan entendit la note métallique si particulière. Richard venait de dégainer son épée. Mais des soudards sortaient à présent de tous les dortoirs. Par bonheur, habitués depuis trop longtemps à la docilité des Bandakar, les hommes de l'ordre ne semblaient pas s'attendre à de gros problèmes. Ils se trompaient lourdement et le payèrent de leur vie dès qu'ils furent à portée de l'épée de Richard et de la gielle de Kara. Les cris des mourants réveillèrent tout le camp. Encore en train d'enfiler leurs vêtements, de nouveaux soldats déboulèrent dans la cour. Malgré la pénombre, Callan vit que Richard avait atteint le pont-levis. Levant son arme, il l'abattit sur une des chaînes qui tenait le tablier en place. Dans une gerbe d'étincelles, le maillon que visait le sourcier se brisa. Richard alla s'occuper de l'autre chaîne. Deux hommes tentèrent de l'intercepter, mais il n'eut aucun mal à les tailler en pièces. Tandis que Kara se chargeait des nouveaux importuns qui accouraient, le sourcier fit exploser la seconde chaîne. Aussitôt, le tablier bascula en avant. Richard poussa pour l'aider à prendre de la vitesse. Il n'eut pas à forcer longtemps. Entraîné par son poids, le pont-levis s'abattit sur les douves. Les hommes qui attendaient dehors, leurs épées, leurs haches et leurs masses d'armes brandies, poussèrent un cri de guerre et se ruèrent à l'intérieur du camp. Les soldats de l'ordre leur barrèrent le chemin. L'ultime combat venait de commencer. Du coin de l'œil, Callan vit que des soudards s'étaient engagés dans l'escalier, du côté opposé du balcon.
« Allez !»
cria l'inquisitrice aux prisonnières.
« C'est le moment de filer !»
Saisissant la rampe pour ne pas perdre l'équilibre, Callan dévala les marches devant des centaines de femmes, dont un bon nombre portait un enfant dans les bras. Richard courut jusqu'au pied de l'escalier et lança à sa femme une épée courte à la poignée enveloppée de cuir. L'inquisitrice réceptionna l'arme juste à temps pour transpercer le cœur d'un soldat qui lui fondait dessus. Owen sortit de la mêlée et rejoignit les prisonnières.
« Le pont-levis »
cria-t-il.
« Vite !»
Les femmes entreprirent de traverser la cour. Quand elles passaient près des combattants, certaines s'arrêtaient, puis se jetaient sur le dos d'un des soudards qui affrontait les résistants d'Owen. Elles mordaient la nuque des soldats, leur griffaient les yeux, leur arrachaient les oreilles. Les soudards ne faisaient pas la différence entre les hommes et les femmes, c'était une évidence depuis le début du conflit. Voyant plusieurs de leurs compagnes mourir, les prisonnières, loin de fuir, furent plus nombreuses encore à attaquer les hommes de Jagang. Si elles avaient couru vers le pont-levis, elles auraient pu s'évader, mais elles préféraient lutter à main nue contre des soldats entraînés. Ces Bandakar étaient entre les mains des soudards depuis longtemps, et Callan imaginait aisément ce qu'elles avaient enduré. Au fond, elle comprenait leur réaction. Elle se serait même jointe au combat si son corps avait bien voulu lui obéir. Entendant un bruit de pas, elle se retourna et vit qu'un homme courait vers elle. C'était Nadjari. Le bras droit de Nicolas. Il la reluquait depuis sa capture et il devait penser que l'heure de s'amuser avec elle avait sonné. Callan aurait volontiers utilisé son pouvoir contre cette brute, mais elle redouta que sa magie lui fasse défaut. Préférant ne prendre aucun risque, elle sortit l'épée qu'elle cachait dans son dos, la brandit et laissa Najari s'embrocher tout seul sur la lame. Les yeux écarquillés, l'officier cria de douleur quand l'inquisitrice fit tourner l'épée dans la blessure afin d'achever le travail. Terrorisée, Najari se pétrifia comme s'il craignait que ses mouvements aggravent encore sa situation. Mais elle était désespérée, et Kalan abrégea son agonie en imprimant un mouvement ascendant à sa lame. Quand elle eut dégagé l'épée, Najari se laissa tomber à genoux, les mains plaquées sur le ventre. L'air infiniment surpris, comme s'il venait de comprendre qu'il n'aurait jamais le trophée que lui avait promis Nicolas, il resta un instant en équilibre, puis bascula en avant. En mourant, il déversa sur le sol ses entrailles rouges de sang. Kalan tourna la tête pour voir où en était la bataille. Campé devant le pont-levis, Richard taillait en pièces les hommes qui tentaient de prendre le contrôle de la sortie du camp. Des bandakars venaient au secours du sourcier. Tels des guerriers entraînés, ils frappaient les soudards dans le dos sans leur laisser l'ombre d'une chance. Kalan aperçut Owen qui traversait la cour en direction d'un homme campé devant une porte juste sous le balcon. Le crâne rasé et la barbe noire, ce colosse avait des avant-bras énormes et ses épaules étaient deux fois plus larges que celles d'Owen.
« À nous deux, Luchan !»
lança le bandakar. Les yeux rivés sur l'officier, il ne semblait plus voir ce qui se passait autour de lui. Derrière Luchan, une silhouette féminine se découpa dans l'encadrement de la porte. L'officier se retourna et lui ordonna de rentrer, ajoutant qu'il allait s'occuper du crétin venu le défier. Lorsque Luchan fit de nouveau face à la cour, Owen se tenait devant lui.
« Si tu retournais te cacher dans ton trou, vermisseau !»
lança l'officier, les poings plaqués sur les hanches. Owen ne lança aucun avertissement et ne formula aucune exigence. Suivant à la lettre les conseils de Richard, il bondit sur Luchan et lui enfonça son couteau dans la poitrine. Le boucher de l'ordre avait sous-estimé son adversaire et ça lui avait coûté la vie. La jeune femme avança, s'arrêta près du corps de son défunt maître, baissa les yeux, regarda un moment le sang qui coulait de la blessure, puis leva la tête vers Owen. Kalan devina qu'il s'agissait de Marily. Un instant, elle redouta qu'elle rejette Owen parce qu'il avait initié un cycle de violence. Mais Marily sauta au cou d'Owen et l'enlaça. Puis elle se dégagea, saisit le couteau que tenait son promis, s'agenouilla près du cadavre et le larda de coups si puissants que la lame chaque fois s'enfonça jusqu'à la garde. Devant ce spectacle, Kalan devina sans peine comment Luchan avait traité sa prisonnière. Sa colère épuisée, Marily se releva et se jeta de nouveau dans les bras d'Owen. Kalan décida de rejoindre Richard. Et elle se réjouit de constater que son corps lui obéissait normalement. Elle longea les murs pour contourner le champ de bataille. Des soldats l'aperçurent et imaginèrent bien entendu qu'elle ferait une proie facile. Ils ignoraient que l'inquisitrice avait été initiée au maniement de l'épée dès le plus jeune âge par son père, le roi Wyborn, et que le sourcier de vérité en personne s'était chargé de perfectionner sa technique. En particulier, il lui avait appris à tirer davantage de son physique. Là où d'autres usaient de leur puissance, elle pouvait compter sur une vitesse hors du commun. Les hommes qui l'agressèrent commirent là leur dernière erreur. Des soldats parfaitement réveillés et prêts au combat sortaient maintenant des dortoirs. Tous se ruaient sur Richard, et ils étaient beaucoup trop nombreux, même pour le sourcier. Les bandakars faisaient de leur mieux, mais ils ne parviendraient pas à protéger leur chef. L'affaire tournait mal. Kalan entendit un bruit assourdissant au moment où le mur d'enceinte du camp s'embrasa. Éblouie, elle dut se protéger les yeux avec les mains. En un clin d'œil, il faisait clair comme en plein jour. En même temps, une obscurité plus profonde que la pire nuit sans lune s'abattait sur le camp. Un éclair, né de la magie additive, tourbillonnait dans un trou noir issu de la magie soustractive. En s'unissant, les deux forces pouvaient tout balayer sur leur passage. On eût dit que le soleil de midi venait de s'écraser au milieu du camp.
L'air lui-même parut aspiré par la chaleur et la lumière qui se dégageaient de ce vortex. Callan tenta d'inspirer, mais elle eut l'impression d'inhaler du métal en fusion. La fureur de Richard se concentra sur une cible. En quelques secondes, le sortilège double fit le tour du camp et tua tous les soldats de l'ordre impérial. Puis, la nuit redevint obscure et silencieuse. Pétrifiés, les bandakars se tenaient au centre d'une immonde mer de sang, de lambeaux de chair, de viscères et de fluides innommables. La bataille était terminée, et les bandakars l'avaient emportée. Heureuses d'être libres, les femmes se laissèrent enfin aller à pleurer de joie. Folles de reconnaissance, elles étreignirent leur libérateur, unissant dans leur allégresse ceux qu'elles connaissaient et ceux qu'elles voyaient pour la première fois. Les hommes aussi pleuraient de bonheur et de soulagement. Callan se fraya un chemin parmi cette foule débordante d'enthousiasme. Beaucoup d'hommes la saluèrent au passage, la remerciant d'avoir participé à la défaite de l'ordre impérial. Elle ne leur prêta pas attention et continua à courir vers Richard. Il était appuyé au mur, Kara le soutenant discrètement. Il n'avait pas rengainé son épée dont la pointe reposait sur le sol.
« Mère inquisitrice !» s'écria Owen, qui approchait aussi du sourcier. « Je suis si content de vous revoir. Seigneur Hal, j'ai le plaisir de vous présenter Marily. »
Quelques instants plus tôt, la jeune femme avait lardé de coups de couteau le cadavre de son tortionnaire. À présent, elle semblait trop intimidée pour parler et se contenta d'incliner humblement la tête. Richard redressa les épaules et sourit. « Ravi de te rencontrer, Marily. Owen nous a parlé de toi et nous savons combien tu comptes à ses yeux. Tout au long de cette aventure, tu as toujours eu la première place dans son cœur et dans son esprit. Par amour pour toi, il a trouvé la force de changer les choses dans l'Empire Bandakar. » Marily parut franchement dépassée par les événements.
« Le Seigneur Hal est venu à nous et il ne nous a pas simplement sauvés, » dit Owen à sa bien-aimée. « Il m'a donné le courage de combattre pour ceux que j'aime. En fait, il l'a donné à tous les hommes qui l'ont rencontré. »
Rayonnante, Marily se dressa sur la pointe des pieds et embrassa le sourcier sur la joue.
« Merci, Seigneur Hal. Je n'aurais jamais cru que mon Owen pouvait accomplir de tels exploits. »«
Ma petite, » marmonna Kara, « nous avons eu de sacrés doutes à son sujet, tu peux me croire. »
Elle tapa sur l'épaule du bandakar.
« Mais il s'en est bien sorti. »
« Ce que j'ai vécu ici m'aide à mesurer la valeur de ce que vous avez apporté à mon peuple, Seigneur, »
dit Marily. Richard sourit aux deux jeunes gens, mais il ne put étouffer une quinte de toux. Partout dans le camp, l'allégresse se dissipa. Des hommes et des femmes accoururent pour aider leur sauveur.
« Richard, non !»
cria Callan quand elle vit du sang couler sur le menton de son mari. Quand on l'eut allongé sur le sol, le sourcier fit signe à sa femme de s'agenouiller près de lui. Des larmes ruisselant sur les joues, Kara lui tenait la main. Arrivé au bout de ses forces, Richard cédait aux assauts du poison et il n'y avait plus rien à faire pour lui.
« Owen, » dit-il entre deux accès de toux, « nous sommes loin de ta ville ?»«
Non, Seigneur, quelques heures si nous nous dépêchons. »
L'herboriste qui a conçu le poison et l'antidote vivait bien à Witherton.
« Oui, sa maison y est toujours. »«
Emmène-moi là-bas. »«
Bien sûr, Seigneur, »
répondit Owen, visiblement surpris.
« Et vite !»
ajouta Richard. Il voulut se relever, mais n'y parvint pas.
« Il nous faut de quoi fabriquer une civière !»
cria Tom en accourant, Jensen à ses côtés.
« Nous nous relayerons pour le porter par équipe de quatre. On devrait arriver vite à destination. »
Des hommes entrèrent dans les bâtiments en quête du matériel nécessaire à la fabrication d'une civière.